très bon réveil. Il est 8h.
Sincèrement, on en aurait pleuré, quoi. Tout ce gâchis, tout ce gâchis. Alors que depuis 15 ans, en fait, on avait raison.
Des éoliennes condamnées à la destruction et des écologistes qui se réjouissent. Ça peut t'étonner, on vous explique tout dans un instant. L'Europe fait-elle un pas supplémentaire vers le passeport vaccinal? Emmanuel Macron refuse encore de prononcer le mot, mais le sujet est bien sur la table. C'est un nouveau marché florissant pour les escrocs. Vous allez découvrir le trafic d'anticancéreux dont une filière vient d'être démantelée. Et puis, l'idole des jeunes a le même âge que les jeunes et les mêmes angoisses. La chanteuse Billie Eilish, 19 ans, est au cœur d'un documentaire événement. À 8h15, mon invité, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec vous, Rémi Bossaron.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est une première en France. La justice ordonne la destruction d'un parc d'éoliennes. Coup dur en apparence pour un pilier de la transition écologique. Mais ce n'est pas si simple. Bonjour Benjamin Peter.
Bonjour Rémi, bonjour à tous.
Ce qui peut surprendre, c'est que sur place, près de l'Odève, dans l'Hérault, où vous vous êtes rendu pour Europe 1, ce sont des écologistes qui se réjouissent de cette décision.
Oui, parce que pour eux, c'est une écologie en trompe-l'œil. Jean Pougnet est membre du collectif régional Toutes nos énergies. Et depuis le début, il dénonce l'absurdité de ce projet sur les hauteurs de Lunas. Les éoliennes sont construites et exploitées depuis 10 ans. Et pour eux, c'est un désastre écologique.
Le projet, il est à la fois sur des couloirs migratoires où il y a un certain nombre d'espèces protégées. Il est dans un parc naturel régional. Il est en zone absolument non constructible, ce qui fait quand même beaucoup.
Alors la bataille juridique a conduit à 2 annulations de permis de construire, mais le projet s'est construit malgré tout. Pour Michel Solans, ces parcs industriels sont le contraire de l'écologie.
Le combat, il n'est pas uniquement « Ah, devant chez moi, il y a des éoliennes, j'en veux pas, je sais pas quoi ». Non, on va beaucoup plus loin. C'est vrai que les éoliennes, de toute façon, ça artificialise les sols. Un, ça n'a rien d'écologique, parce qu'effectivement, bon, les tonnes de béton... Mais en plus, on cumule le nucléaire, l'éolien, le photovoltaïque, demain l'hydrogène, etc., etc. Les premières préconisations qu'on devrait faire, c'est petit à petit de baisser sa consommation.
Alors de son côté, le promoteur Valeco, qui exploite ce parc éolien, s'étonne de cette décision et a l'intention de faire appel, un appel qui ne sera toutefois pas suspensif. La décision est exécutoire et prévoit la destruction des 7 éoliennes dans les 4 mois sous astreinte de 9000 euros par jour.
Merci pour ces explications, Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 dans le sud de la France.
Mais alors est-ce que c'est écologique ou pas ces éoliennes? Je poserai la question dans un tout petit quart d'heure à Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Les dirigeants européens sont-ils en train de parler de la même chose sans utiliser les mêmes mots?
Au cœur des discussions de leur visioconférence entamée hier, il y a l'idée d'une certification médicale commune qui permettrait de faciliter les déplacements. Mais au cours de sa conférence de presse, pour le moment, Emmanuel Macron a lui simplement évoqué un pass sanitaire.
Nous allons mettre en place une organisation à travers ce que j'appellerais un pass sanitaire. Quand je dis pass sanitaire, c'est que ça ne peut pas être soumis au vaccin.
Pas de passeport vaccinal donc, tant que tout le monde n'aura pas été vacciné. C'est l'idée d'Emmanuel Macron. Pourtant, Angela Merkel, elle, parle d'un certificat de vaccination. Et elle ajoute: l'objectif politique est d'y parvenir dans les prochains mois. J'ai déjà parlé de 3 mois. Alors entre le passeport sanitaire et le certificat de vaccination, quel chemin va trouver l'Europe? Ce sont encore de longues négociations qui s'annoncent, Isabelle Horry.
Oui, une fois de plus, c'est un test pour la capacité des Européens à se coordonner. Le risque, s'ils ne se mettent pas d'accord dès ce printemps, c'est que chaque pays élabore ses propres règles dans son coin. La Grèce et Chypre ont d'ailleurs déjà conclu des accords avec Israël. Donc les 27 doivent avancer sur le plan technique. Il faut mettre au point un certificat numérique qui soit valable dans toute l'Union européenne, sans doute en s'appuyant sur les applis nationales comme Tous Anti-Covid. La présidente de la Commission européenne a déjà mis en garde, il faut se dépêcher, Google et Apple sont sur les rangs pour proposer leurs propres solutions. Les Européens doivent aussi s'accorder sur une question de fond. Quel usage pour ce certificat? Pas question que le vaccin soit le seul sésame pour voyager, insistent Paris et Berlin. S'il n'y a que les vieux, les soignants, les Britanniques et les Israéliens qui peuvent bouger, ça va poser des problèmes, résume crûment une source européenne. Emmanuel Macron l'a dit dans la réunion et en conférence de presse. La jeunesse aussi doit pouvoir passer les frontières.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Les dirigeants de l'Union européenne ont par ailleurs réaffirmé l'importance de maintenir des restrictions fermes et d'accélérer l'acheminement des vaccins.
Les prochaines semaines seront difficiles sur le terrain de ces vaccins, selon le Conseil européen. Un discours qui tranche avec celui du président américain Joe Biden. Je suis là pour vous dire, a-t-il dit cette nuit, que nous sommes à mi-chemin. 50 millions de doses injectées en 36 jours depuis que je suis président. Nous avons plusieurs semaines d'avance sur notre programme. Un élan d'autosatisfaction de Joe Biden qui appelle tout de même ses concitoyens à ne pas se relâcher.
This is not a time to relax.
En attendant cette campagne de vaccination, en France, vous le savez, la situation sanitaire est tendue dans 20 départements.
Départements ciblés hier par le Premier ministre Jean Castex. Ils pourraient être à leur tour concernés par des mesures de confinement le week-end si la situation ne s'améliore pas dans les prochains jours. Mais la mairie de Paris veut aller plus vite et plus fort. Elle demande 3 semaines de confinement strict avec l'espoir de rouvrir ensuite les bars, les restaurants et les lieux culturels. Une stratégie qui serait inacceptable pour Francis Palombi, président de la Fédération des commerçants de France.
C'est une ineptie. Il y a déjà le couvre-feu, de nombreuses mesures qui ont été mises en place par l'État, parce que les commerçants individuels, avec la distanciation qui a été fixée à 8 mètres, sur 50, 80, 100 mètres carrés, ce ne sont pas des éléments à risque, les marchés ouverts non plus. Bon, qu'il y ait certaines mesures complémentaires, je peux l'admettre, mais le confinement total à Paris, on ne peut pas tolérer, ça va mettre au plus mal, encore plus mal, le commerce à Paris. Cette décision n'est pas encore validée. Nous sommes tous les unions commerciales, les représentants professionnels comme je le représente, effarés de cette décision brutale de la part de la maire de Paris.
La colère de Francis Palombi, président de la Fédération des commerçants de France, micro européen de Caroline Baudry.
On connaissait les mules chargées de faire passer de la drogue. Eh bien aujourd'hui, accrochez-vous, certaines mules font passer des traitements anticancéreux.
C'est un nouveau trafic qui se développe à coups de fausses ordonnances et d'exportations vers l'étranger, vers l'Égypte par exemple. Une filière vient d'être démantelée. 15 personnes arrêtées, 400 000 euros de médicaments saisis. Bonjour Gladys Laffitte.
Bonjour.
Alors c'est un phénomène récent et pourtant le mode opératoire est déjà bien rodé.
Oui, ça explose. Hein. Depuis un peu plus d'un an, il y en a partout en France. Et ce sont les hôpitaux et les pharmacies qui ont multiplié les signalements. On en compte plus de 800 aujourd'hui. Alors voici le mode opératoire, c'est toujours le même. D'abord, une petite main, un collecteur, recruté via le réseau social Snapchat, qui se rend dans une pharmacie pour récupérer une boîte d'un médicament anticancéreux, prescrit sur ordonnance falsifiée. Une boîte qui vaut très cher. Écoutez Pierre, il est pharmacien à Bordeaux et à la mi-janvier, il s'est retrouvé face à un faux patient venu récupérer un traitement à 7000 euros.
Il avait quoi, entre 25 et 30 ans, assez tranquille, il avait juste une canne, rien d'exceptionnel. Moi, je lui ai posé une question en lui demandant si c'était la première fois qu'il avait ce traitement. Il m'a répondu oui, et grâce à certains outils qu'on a en pharmacie, notamment le dossier pharmaceutique, j'ai pu voir que les semaines précédentes, il avait déjà plusieurs délivrances de ce même traitement. Pour vérification, j'ai appelé l'hôpital. Et là, l'hôpital nous a directement dit que il y avait des falsifications sur ces ordonnances-là et que c'était une fausse. C'est des ordonnances qui sont envoyées là visiblement par mail, mais sur une instauration de traitement d'un médicament aussi cher, c'est des choses qui sont assez rares. Hein. C'est des choses qui sont quand même en direct avec le patient, donc on est censé avoir des ordonnances avec des vrais coups de crayon, quoi.
Le pharmacien a donc prévenu la police qui a arrêté le collecteur, mais c'est assez rare d'après un enquêteur. Beaucoup d'officines ferment les yeux et délivrent les médicaments sans même vérifier.
Mais que deviennent ensuite ces médicaments ?
Eh bien, des rabatteurs récupèrent ces boîtes contre 300 euros environ pour le collecteur. Et puis, ces boîtes sont ensuite revendues bien moins chères que leur prix d'origine et exportées illégalement à l'étranger, en Égypte par exemple. Alors, le préjudice, eh bien, il est colossal pour l'assurance maladie. C'est le colonel Ludovic Erard de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, qui nous l'explique. Pour lui, ça se chiffre en millions d'euros.
La France est visée parce qu'on a la chance d'avoir un très bon système. Puisque notre chaîne de médicaments est fiable, on peut se les faire prescrire quasiment gratuitement. Ce phénomène qui touche la France, semble-t-il, a aussi touché le Liban. Donc c'est vraiment des pays qui peuvent fournir une protection à leur population, qui à un moment donné vont être spoliés de ces médicaments pour une destination de pays qui, semble-t-il, ont moins les moyens de fournir une protection style assurance maladie à leur population.
Mais alors Gladys, est-ce qu'on sait qui se cache derrière ce trafic ?
Pour le moment, une filière majeure a déjà été identifiée et démantelée, celle qui exportait vers l'Égypte. Mais globalement, ce sont des groupes criminels très organisés. Ils sont souvent basés en région parisienne et dont les têtes de réseau et les intermédiaires sont déjà connus de la justice, notamment pour d'autres types de trafic, mais qui se sont tournés vers celui-ci, eh bien parce qu'il est beaucoup plus lucratif.
Merci pour ce dossier complet, Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le monde entier connaît ses yeux verts et ses cheveux qui sont verts. Eux aussi, parfois. Billie Eilish a 19 ans. Et le documentaire qui est consacré aujourd'hui à cette chanteuse pourrait permettre de mieux comprendre toute une génération.
La clé de son succès, c'est sans doute aussi le mal-être qu'elle exprime et qu'elle partage avec une grande partie de la jeunesse. Angèle Châtelier.
Cette chanson de Billie Eilish s'appelle « Listen before I go », écoute avant que je ne parte. Et c'est en réalité une lettre de suicide. Dans son documentaire consacré, on voit sa mère être préoccupée que sa fille pense à un tel acte.
Tu n'es pas inquiète de ça ?
C'est grâce à cette chanson que je le fais pas.
Billie Eilish est devenue pour les plus jeunes une icône pop par sa musique et gothique par ses paroles. Elle évoque ses terreurs nocturnes, son anxiété ou son ennui dans « Bored ». Axel, 18 ans, écoute Billie Eilish quand elle ne va pas bien, car elle met des mots sur ses angoisses.
Je me retrouve dans ce qu'elle dit, ça permet de s'évader un peu quand on n'est pas très bien dans notre vie. Parler de quand on va mal, etc., c'est aussi beaucoup moins tabou. Elle représente bien notre génération.
Et elle permet aux adolescents de se sentir moins seuls, ce qu'explique Vincent Cornalba, psychologue et auteur de l'ouvrage « L'adolescent et sa musique ».
L'adolescence, c'est fait vraiment de beaucoup d'inquiétudes, d'inconnus. On va s'identifier beaucoup à ses paroles, on peut même presque avoir l'impression qu'elles ont été écrites pour nous, ça soulage considérablement.
Et le nom du documentaire sur la vie de Billie Eilish est équivoque, son titre, Le Monde, est un peu flou.
Billie Eilish, documentaire à retrouver aujourd'hui sur la plateforme Apple TV.
Et puis Mathieu, savez-vous à quoi ressemblait la Terre au temps des dinosaures ?
Non.
Étonnamment.
Une vague idée, comme ça, j'ai vu Jurassic Park, mais non.
Eh bien justement, elle ressemblait plutôt en fait à un centre commercial rempli d'adolescents. Voilà, c'est la conclusion très sérieuse d'une étude publiée par la revue Science. En résumé, les ados dinosaures, et notamment les ados T-Rex, étaient tellement gros qu'ils mangeaient toutes les ressources et condamnaient les plus petites espèces. C'est l'explication d'un mystère. Enfin, on comprend pourquoi les grandes espèces dominaient en nombre à l'époque, contrairement à aujourd'hui.
C'était donc simple. Une fringale d'ado. Quiconque a des ados à la maison sait qu'on peut manger un kilo de pâtes d'un coup quand on a 15 ans.
Et un ado T-Rex, je pense, ça mange beaucoup.
Merci beaucoup Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.